Et vraiment, nous nous sentons, Valérie et moi, toujours, on est à la maison. Pas parce que vous êtes accueillants, non. C'est parce que vous êtes des frères et sœurs. Parce que on a vu tout à l'heure, on a chanté un chant. Jésus qui n'a pas voulu être seul au ciel, il est venu sur cette terre pour mourir pour chacun de nous, pour qu'on soit une seule famille. Et ça, c'est pour moi qui viens des religions et des traditions, pour moi, ça, c'est vraiment précieux. C'est une perle que j'ai trouvée quand j'ai connu Jésus. Et je crois cette perle, ma mission aujourd'hui, c'est de ne pas la garder pour moi-même. Vous vous rappelez la dernière fois, quand j'ai parlé du psaume 103, et aujourd'hui, tu l'as rappelé, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob et le Dieu de David est notre Dieu. Combien il était fidèle à David, combien il était fidèle à son peuple et combien il est fidèle à chacun de nous. Et je crois ce Dieu-là qui a fait tout pour nous, je crois que la simple chose qu'on peut faire, c'est de témoigner de ce qu'il a fait pour chacun de nous. Et je crois aujourd'hui, je vais parler du paralytique. Je crois que vous connaissez cette histoire dans Marc, elle est aussi dans d'autres évangiles. C'est dans Marc 2, du verset 1 à 12. Et je crois, vous voyez que l'année 2020, j'étais ici, je crois, en 2020, ouais. Cette année-là qui a chamboulé nos vies, a changé nos habitudes et a marqué notre histoire. Je retiens un détail impressionnant. Je me rappelle quelquefois quand je regarde la télé, et puis je vois chaque soir dans nos villes, on voyait des habitants debout, que ce soit au balcon ou à leur terrasse, et qui tous applaudissaient le courage et la tâche noble des blouses blanches, qui dans nos hôpitaux et nos centres de santé œuvrent de longues heures pour sauver des vies. Ramener une personne à la vie est une chose précieuse. Et c'est ce que Jésus a fait pour chacun de nous sur la croix. Ce n'est pas seulement la vie courte qu'on a dans ce monde, mais la vie éternelle qu'on a en lui. C'est précieux de ramener une personne à la vie. Je me rappelle quand ma femme et moi, nous avons travaillé au Yémen. Et je me rappelle en 1998, j'ai remplacé notre directeur et j'y habitais à l'hôpital. Et puis un jour, après mon service, je suis allé faire la sieste l'après-midi, puis le téléphone qui sonne. Et puis ils m'ont dit, tu vas venir tout de suite à la maternité, c'est urgent. Ben, j'étais à l'hôpital, même pas une minute, j'étais là-bas. Et je voyais un bébé bleu entre la vie et la mort. Il y avait une infirmière suissesse. J'aime bien les Suisses parce qu'ils sont pressés, ils savent tout. Dès que je suis arrivé, je lui dis, elle a les clés de toutes les chambres. Je lui dis tout de suite, ouvre la salle d'opération. On a couru tous les deux. Et puis, on a aspiré le liquide parce que ce bébé, il avait le liquide, la bouche et le nez. Il ne pouvait plus aspirer. Et puis, quand on a aspiré, on a commencé à donner l'oxygène, je voyais que ce visage devenait rose. Et puis, je lui ai dit, prépare une voiture. Et puis, on est allé à un autre hôpital dans la ville. Mais c'était un hôpital qui est bien équipé, où il y a beaucoup plus les soins intensifs. Et on connaissait ces gens-là, on a toujours collaboré avec eux. Et je leur ai dit, cet enfant doit rester chez vous jusqu'à demain. Et le lendemain, je suis allé chercher ce bébé et je l'ai ramené à sa mère. Elle était heureuse. Et moi aussi. Et je me suis dit, combien est précieux la vie. combien c'est précieux d'amener quelqu'un chez le médecin. Et aujourd'hui, l'histoire qu'on va voir, c'est quand on ramène quelqu'un au médecin des médecins. Donc, cette histoire biblique qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est que autour de nous aujourd'hui, il y a des gens malades, il y a des gens égarés, il y a des paralytiques qui ont besoin d'un médecin, qui ont besoin d'un médecin qui guérit pas seulement le corps, mais l'âme. Et donc, c'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui. Essayons d'amener les gens à Jésus. Et je vais lire le texte, on va le lire ensemble, vous écoutez. J'aime bien lire la parole du Seigneur. Marc 2, le verset de 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » C'est beau ça. « Tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? » Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Ce texte, elle est vraiment très riche. Moi, j'aime bien quelquefois quand je lis la Bible, puis je relis, puis quelquefois on a des petits textes. En anglais, on dit « it's pregnant ». C'est un texte qui est plein de bonnes choses. Même quelquefois, un seul verset, une phrase, il y a beaucoup de bonnes choses. Et vraiment, la parole du Seigneur, elle est très riche. Mais plus riche encore quand on l'a mis en pratique. Et je crois de ce texte, j'ai relevé juste ces phrases-là. Des gens vinrent à lui, dans le verset 3. Vous voyez, c'est des gens qui sont allés vers Jésus. Des gens, on pourrait dire, nous ici, cette église est allée vers Jésus. C'est un groupe de gens. Et puis il y avait un paralytique qui était porté par quatre personnes. Et puis ces gens-là, comme les rues étaient étroites, ils étaient coincés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils descendirent le malade d'un trou qu'ils aménagèrent au plafond. Et Jésus, voyant ça, waouh, ces gens-là, ils ont vraiment une grande foi. Ils ont mis leur foi en action. Et puis il a dit, au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Donc, je vais diviser ce petit texte en cinq volets. D'abord, la sensibilité envers les autres, et c'est ça qui est très important, c'est notre mission, nous les chrétiens. Et puis le travail collectif. Troisièmement, les obstacles et les oppositions. Et nous vivons ça aujourd'hui. L'Église le vit aujourd'hui. Le monde commence vraiment à être contre nous. On le voit, que ce soit aux médias, que ce soit même les gens autour de nous, comment ils réagissent contre l'Église, contre les chrétiens. Et puis la foi en œuvre, et puis les fruits. Donc la sensibilité envers les autres. Nous avons vu dans le verset 3, ces gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Ce paralytique, le pauvre, il était chez lui, souffrant, souhaitant être guéri. Vous voyez le besoin d'un homme limité s'il est seul. Comme même ça peut arriver aujourd'hui, quelqu'un qui est seul et qui est malade. Comment pourrait-il aller à l'hôpital? Aujourd'hui, on a des moyens, on peut téléphoner à l'ambulance, on peut. Mais en ce temps-là, ces gens-là, ces voisins, ils ont pensé à aider cet homme. Et puis, ils se sont mis au travail. Un travail collectif. Et aujourd'hui, nous, quand nous voyons des gens limités par les circonstances, sommes-nous prêts à l'œuvre? Quand nous voyons des gens errants devant nous, dans nos villes, dans nos rues, avons-nous le courage d'aller vers eux pour les amener à Jésus? Et ceux qui sont par terre, les indignés, les réfugiés, avons-nous un cœur pour eux? Vous vous rappelez l'histoire du Samaritain? Il passait, il avait un juif entre la vie et la mort. Et puis, il est allé pour aider cet homme. Mais le prêtre et le lévite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés de l'autre côté. Et c'est triste. Il ne faut pas toujours... Tu vois, quelquefois, même aujourd'hui, on voit que des gens, littéralement, ils interprètent la Bible. Dieu nous a donné un esprit de discernement. Ce lévite et ce prêtre auraient pu dire, mais la vie de cette personne est plus importante que la loi. Mais ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, nous vivons dans une société qui devient de plus en plus individuelle, insensible et programmée. Aujourd'hui, on voit que les églises sont pleines d'activités et le sentiment envers les autres s'est perdu, à l'exception de certaines églises encore sources d'amour et de compassion. Sinon, l'indifférence et l'individualisme ont rompu la chaîne humanitaire. J'aime bien les actions humanitaires ou sociales que certaines églises organisent encore. Je me rappelle, il y a 2 ou 3 ans, je crois, avec ma femme, on est venu à Biel, il y avait 11 églises. On avait un week-end, et votre église, elle était là. Et ça, c'est bien. C'est une joie de voir des gens qui sont dans les rues, témoigner, amener des gens à Jésus. Ça, c'est la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est ne pas devenir ici le dimanche, on est enfermé, le monde est dehors, il ne voit rien. C'est comme les ambulances, vous savez, ils ont ce verre opaque, on ne voit pas à l'intérieur. Ah ben, le monde ne voit pas ce qui se passe ici, mais nous devons sortir que le monde nous voit. Et ça, c'est un travail collectif quand l'Église se met à l'œuvre. Et on a vu dans cet exemple-là, les quatre personnes ont travaillé comme une seule équipe. Chacun d'eux a pris un coin du brancard improvisé. Et les quatre se dirigeaient dans la même direction, à la même vitesse pour ne pas brusquer le malade. Vous savez, dans 1 Corinthiens 12, le verset 4, il dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et c'est ce qu'on avait dans l'exemple de ces gens-là. Vous voyez l'unité dans le travail. Vous vous rappelez, si vous passez à l'autre, l'unité dans le travail. Je me rappelle, j'ai regardé à la télévision les funérailles du prince Philippe. Et vraiment, quand j'étais sidéré, ici c'est pas quatre personnes, mais c'est le double. 8, parce qu'il y en a 4 de chaque côté. Et comment ces gens-là, elles marchaient l'un derrière l'autre, surtout le premier. Dès qu'il fait un pas, tous ils doivent faire le même pas, dans la même direction. Et aussi, quand la deuxième image, vous voyez quand ils vont monter maintenant l'escalier pour rentrer dans la chapelle, ils ont fait la même chose. Et c'est ça l'unité de travail. C'est comme ça qu'une équipe travaille ensemble. C'est comme ça qu'une église opère dans l'unité. Parce que s'il y en a un qui a des visions et qui dépasse les autres, qui ne veut pas attendre, ça ne marche pas. Nous devons être unis en tout. Et j'ai cette image qui m'a beaucoup parlé. J'étais une fois au Maroc, je crois, entre Essaouira et Agadir, on voyageait. Et puis j'ai vu ça, j'ai dit, je ne vais pas rater. On s'est arrêté, j'ai pris la photo. Cette image toujours me parle. Quand on était au Yémen, on l'a vu dans notre mission, il y avait des infirmières, il y avait des médecins, des administrateurs. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y a même des gens universitaires, des gens qui ont des diplômes, et qui sont érudits, et ils ont fait les choses les plus simples pour notre équipe. S'abaisser, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Et ce que j'aime ici, si on compare ces deux animaux, que ce soit leur poids, que ce soit leur... Quand ils marchent, ce n'est pas la même. C'est incomparable. Mais comment le maître, il a fait qu'il marche, que le chameau fait les mêmes pas que l'âne, et l'âne fait le même pas que le chameau, et les deux avancent, et la ligne, elle est toute droite. Et pour moi, cette image, elle est bonne pour nous, les chrétiens, parce que Jésus a donné l'exemple. Lui qui était le Fils de Dieu, le roi des rois, il s'est abaissé pour être un serviteur. Un serviteur, il nous a servi, il nous a appris à faire la même chose aux autres. Et c'est ça le rôle de chacun de nous, le rôle de l'Église. Comme j'ai dit, dans cette Église, chacun de vous a un don spécifique. Chacun de vous. Il y en a qui sont bons dans l'hospitalité, il y en a qui aiment parler aux gens, il y en a qui aiment offrir une tasse de café, beaucoup de choses. Et vous vous complétez. Et ça, c'est très important pour les relations de l'Église avec l'extérieur. Malheureusement, quand on voit dans certaines églises, les dons sont devenus comme une matière de fierté, de distinction. d'exclusion ou de division. Je me rappelle, j'étais en Angleterre, et j'étais dans une église et il y a des jeunes qui ont commencé à parler aux langues et puis ils m'ont dit, mais toi tu es médecin, tu ne parles pas les langues. On a un livre, on va te donner ça, tu le lis, on prie pour toi. Et puis moi vraiment, j'étais énervé avec ça. Plusieurs fois, ils me demandaient. Et puis j'ai dit, attendez, je suis allé. À l'époque, je n'avais pas encore fait mon collège biblique, mes connaissances bibliques étaient encore, ça il y a presque 28 ans. Mais le Seigneur m'a vraiment parlé. Je ne sais pas comment je suis allé directement, j'ai lu Acte 2. Et puis je suis revenu avec une réponse à ces gens-là qui étaient vraiment fiévreux et tout ça. Je dis, attendez. Moi, je parle trois langues, l'arabe, l'anglais, le français. Et je lis dans la Bible que les disciples, ils ont parlé les langues des gens qui étaient à Jérusalem. Ils ont parlé le libyen, l'arabe, l'italien, tout. C'est ça les langues. Ils ont parlé aux gens. Je lui dis à ce gars, toi, tu es brésilien. Tu parles maintenant tes langues, blablabla. Est-ce que tu peux aller en France et partager la bonne nouvelle avec un Français? Et puis, il ne savait plus quoi dire. Je lui dis, moi, je peux partager la bonne nouvelle avec, dans tous les pays francophones, arabophones et ceux qui parlent l'anglais. Et depuis là, ils ne m'ont plus posé la question de lire ce livre pour avoir le don des langues. C'est Dieu qui nous donne les choses dont on a besoin. Et on peut l'utiliser dans la bonne direction, pour la gloire du Seigneur, pas pour notre fierté. On a vu que quand on veut faire le bien, quand on veut servir le Seigneur, il y a toujours des obstacles. Et ça fait partie de nos ministères, de notre vie. Vous voyez que par exemple, ces quatre hommes, quand ils sont venus, il y a déjà le premier obstacle. C'était les rues de cette ville qui étaient étroites. Et puis, il y avait beaucoup de monde. Et c'est pour cela, quand on a des obstacles, on doit faire comment on peut contourner les obstacles. On prie, le Seigneur nous donne un esprit de discernement. Ils nous donnent une idée, et ces gens-là connaissent bien la culture de leur pays. Nous, on a travaillé au Yémen, j'ai bien compris cette histoire. Tu vois, ils ont creusé au plafond un trou pour introduire le malade. Vous savez, même chez nous au Maroc, dans certains villages, vous avez ces maisons-là, et si vous montez avec une échelle, du derrière, vous êtes sur des toits, et les toits, c'est juste de l'argile, et quelquefois dans certains pays comme le Yémen, c'est des roseaux. Donc on peut facilement creuser et casser les roseaux et faire un trou. C'est facile. Et le propriétaire, ça ne coûte pas cher. Quand il voit que vous aviez fait ça pour sauver une vie, les gens, ils sont solidaires. Et c'est ce que ces gens-là ont fait. Ce trou-là, et même les dégâts, c'est rien devant la vie de cette personne. Et je crois que les difficultés, aujourd'hui, elles sont toujours autour de nous. Je me rappelle, nous travaillons avec le groupe Oasis en France, et il y a 10 ans, on a commencé à faire des séminaires dans certaines églises pour les encourager à aller vers les étrangers. Et puis, il y avait les anciens de certaines églises. Un jour, ils m'ont invité avec un frère suisse qui travaille avec nous, un pasteur. Il dit, mais comment vous abordez les étrangers? Vous n'avez pas peur? Ils ont pensé que c'est dangereux pour nous parce qu'on allait chez des gens vraiment des barbus. Et frères et sœurs, vous savez, la peur, quelquefois, ça vient de deux choses. On ne connaît pas l'autre, et donc on a les préjugés, ou bien on ne connaît pas notre Bible. Si quelqu'un connaît le psaume 3, il y a beaucoup, beaucoup de versets dans la Bible. Même on va venir à un verset plus tard. Mais on ne va jamais seul. On ne va jamais seul. On est toujours avec le Seigneur. Donc pourquoi je vais avoir peur? Et même une fois, j'étais avec ce Suisse, on faisait porte à porte et on a tapé à la porte. Et puis il y a un barbu qui sort avec sa femme toute voilée. Ils allaient sortir pour faire des achats. Et puis moi, je lui dis, écoute, ça c'est le Nouveau Testament, je l'ai pour toi. Il m'a dit, non, je suis musulman, on a le Coran. Je lui dis, mais dans le Coran, c'est écrit que tu peux lire ces choses-là. Il m'a dit, mais c'est corrompu. Mais je lui dis, c'est bien, tu peux prendre un stylo rouge et souligner les choses corrompues. Et on pourrait se retrouver et les voir ensemble. Tu vois, je l'ai mis au moins, tu vois, quand quelqu'un... Tu le ramènes un peu. Et puis sa femme, elle était tellement embarrassée. Et j'ai dit, on a aussi le film de Jésus. Et puis la femme, elle a dit, est-ce que je peux avoir le film de Jésus? J'ai dit, bien sûr. Et pour nous, au moins ces gens-là, ils ont pris le film de Jésus. On a prié pour eux, mais ils ne nous ont pas bouffés. Je suis toujours devant vous. Et on a dit à ces anciens, lisez votre Bible, il ne faut pas avoir peur. Et louons le Seigneur, certains ont commencé à sortir avec nous quand on a des actions à Mulhouse. Moi, je crois que nous devons faire attention un peu à la peur. La Bible nous dit, il y a des porcs, il ne faut pas leur offrir les perles. Mais tous les gens ne sont pas des porcs. Le Seigneur nous donne un esprit de discernement que tous les musulmans ne sont pas dangereux, tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Il y a des gens qui ont une barbe parce qu'ils ont reçu un lavage de cerveau. Et il se peut que moi, je serai la personne qui peut illuminer cette personne et l'amener à qui? À Jésus. Et je crois que nous remercions le Seigneur durant la période de Corona, même si les gouvernements ont fermé les églises, les frontières, nous pendant plus que 9 mois, on n'a jamais été en France, mais ils n'ont pas fermé le ciel. Alléluia. Et je crois que certaines églises et notre groupe Oasis en France, nous n'étions pas avec eux parce qu'on ne pouvait pas aller en France. Le Seigneur leur a donné une autre initiative. C'est comme ces gens-là qui ont découvert le toit de la maison et puis ils ont fait un trou. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces groupes-là? Ils ont fait un ministère spécialement pour les étudiants, prendre un repas avec une famille. Et vous savez, les étudiants, durant le corona, vraiment, il y en a beaucoup qui travaillaient pour pouvoir un peu vivre. Ils ne pouvaient plus travailler durant la période de la pandémie, ils étaient vraiment à court. Et pour eux, c'était une joie d'aller manger avec une famille. Et généralement, toutes ces familles étaient des familles chrétiennes. Et aussi, ils ont fait des paquets et ils distribuaient de la nourriture aux étudiants. Et voilà, ils ont trouvé un moyen pour témoigner. Un moyen, je ne dirais pas pour amener les gens à Jésus, mais pour montrer le chemin. Parce que quelquefois, on ne peut pas amener tout le monde, mais on peut montrer le chemin. Et vraiment, c'était fantastique. Moi, je crois, nous sommes les sources de l'amour et de la compassion. Et nous devons utiliser ces dons. Une fois, j'étais dans le métro à Paris, et puis j'ai vu ça. L'amour ne tombe pas du ciel. C'est une célibataire qui cherche un partenaire. Et j'ai dit, je ne rate pas cette photo, elle est intéressante. Et nous sommes les fontaines de l'amour. L'amour se trouve en nous. Il ne faut pas attendre que le Seigneur fait tout. Le Seigneur, il se met à l'œuvre. Moi, je connais des musulmans qui ont vu des visions de Jésus. Mais en nous, il y a ces fontaines aussi d'amour et de compassion et de tout que nous pouvons donner au monde. Ça, c'est notre ministère. Les oppositions, comme on l'a vu dans le verset 6, les scribes étaient assis et se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. » Vous voyez, frères et sœurs, il y a maintenant 2000 ans et nous vivons dans les mêmes circonstances. Il y a toujours des scribes, des pharisiens, des opposants à la vérité dans nos sociétés. Et nous devons apprendre à vivre avec ça. Et nous devons apprendre à savoir qu'on n'est jamais seul. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Ce verset, ou bien ces trois versets de 28, beaucoup de, ils sont connus dans le monde chrétien, surtout évangélique. Oh oui, la grande commission. Jésus, il s'est approché et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tu sais, quelquefois, il y a des gens qui choisissent juste le verset 19. Et même les missions, les églises, ils envoient des gens. Vas-y, vas-y. Et puis les gens, ils oublient que ces trois versets, on ne peut pas les diviser. C'est comme la Trinité. On ne peut pas diviser le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont un. Et ces trois versets, on ne peut pas les diviser. Parce que nous, on ne pouvait pas aller au Moyen-Orient si on ne savait pas que Jésus il a le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il était le roi du Yémen, il est le roi de la Suisse, il est le roi de tous les pays. On est parti parce qu'on savait que ce pays appartient à Jésus. Et Jésus, il a le pouvoir là-bas. Et puis la deuxième chose, on était parti parce qu'on savait que Jésus sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous étions là-bas, même quand il y avait la guerre entre le nord et le sud. Et le Seigneur nous a protégés. Donc ces trois versets, ils sont liés. Et on ne doit pas les séparer, on doit juste, oh, allez-y. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se focalisent sur le verset 19. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la foi. Vous savez, quand Jésus, il a vu les cinq personnes et il a vu ce qu'ils ont fait, alors là, il a vu vraiment la foi en action. Et il a vu la foi sublime de ce paralytique. Parce que Jésus, il voit aussi nos cœurs. Il a vu le cœur de cet homme. Il veut être guéri. Il sait que Jésus, il va le guérir. Et c'est ça la foi. La foi, c'est comme dans Hébreux 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je crois, la foi des cinq est ingénieuse. Ils se présentent à Jésus avec une confiance qui a éliminé les doutes. Ils avaient une assurance que s'ils mettaient cette personne devant Jésus, il sera guéri. Parce qu'ils ont entendu parler de Jésus. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils savent que Jésus, en réalité, il est le Fils de Dieu. Et c'est ici que Jacques, il dit, à propos de ces gens-là, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Il en est ainsi de la foi. S'il n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Et puis on connaît l'histoire de Paul qui dit qu'on est sauvé par la foi. Le juste vivra par la foi. Et il y en a beaucoup, quelquefois, quand ils ne comprennent pas ces deux auteurs, Jacques et Paul, ils pensent que mais Jacques, peut-être, il contredit Paul. En réalité, non, il ne contredit pas Paul. La conclusion de ce verset de Jacques, c'est que Christ nous a sauvés. Mais si moi je pense que Christ et mes œuvres me sauvent, c'est là que je fais l'erreur. Parce que vous savez que Jacques, quand il a écrit ces versets, c'est avant Paul. Et puis il a écrit au moment où il y avait des gens qui venaient à Christ. C'est comme aujourd'hui, on le vit encore. Il y a des gens qui disent, ouais, je suis chrétien de génération en génération. Et c'est tout. Et c'est tout. Il n'a aucune relation avec Jésus. Il ne lit pas la Bible. C'est juste le nom qui est le Christ. Ah ben, ces gens-là, leur foi, elle est vide. Parce que sans Jésus, sans le Saint-Esprit, ma foi, elle est vide. C'est ça ce qui nous pousse à faire les bonnes œuvres. C'est ça ce qui nous pousse à vivre comme Jésus. À être à la ressemblance avec Jésus, c'est ça ce qui attire les gens. Et puis aussi, ça amène des fruits. On voit le fruit de ce travail de ces quatre personnes, de ces gens qui ont amené cette personne à Jésus. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. On voit ici renversement des expectations des quatre et du malade. Imagine, vous allez chez un médecin, au lieu de vous dire « je vais vous donner des médicaments », il va vous dire « vous êtes sauvé ». Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour être traité, je suis paralytique, je voudrais marcher, travailler. Pourquoi Jésus a fait ça, selon vous ? Vous savez, moi, je viens d'un pays, on a hérité beaucoup de ces traditions aussi des Juifs. Parce que les Juifs, et même dans le monde arabe, on pense que quelqu'un qui est aveugle ou quelqu'un qui ne voit pas, c'est une malédiction, ou bien des parents, ou bien lui-même. Et donc, cette personne, toute sa vie, cette maladie, il avait la culpabilité qui l'empoisonne. Parce qu'il se dit, si mes parents étaient bien, je ne serais pas paralysé. Ou bien peut-être que j'ai fait quelque chose quand j'étais... Donc il y avait... Et Jésus, il voulait délier cet homme de ses pensées, de cette malédiction. C'est pour cela qu'il lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Donc il lui a donné la liberté. Vous savez que la sagesse de Dieu dépasse toujours nos expectations et nos visions. Vous savez, dans le verset 10, Jésus, il sait qui était là, les scribes. Et c'est pour cela qu'il leur a dit, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Le Fils de l'homme donne deux réponses qui relèvent seulement de Dieu. Donc dans le verset 5, il a dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et dans le verset 11, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. » Alors là, c'est pour elle et les scribes, et puis tous les gens, « Oh là là, mais c'est un miracle. C'est un miracle. » Et je crois que ce malade qui est venu, il était comme un arbre tordu et stérile, et maintenant greffé en la personne de Jésus. Il va porter des fruits. L'homme qui est venu maudit, marginalisé et immobile, maintenant il est devenu un témoignage béni, visible et mobile. Imaginez quand il rentre chez lui, et quelqu'un vient à sa maison, il tape, et puis le paralytique qui ouvre la porte. Mais c'est ton frère. Non, non, c'est moi. C'est toi. Mais comment c'est arrivé? C'est un témoignage maintenant mobile. Et Jésus, toujours, il a dit, quand il fait des miracles, il dit aux gens, ne dis rien, rentre chez toi. Parce que ces gens-là, ils deviennent des témoignages mobiles. Et nous aussi, moi aussi, je n'étais pas seulement paralytique. Vous savez, mon nom, Abdeltif. Abd, ça veut dire esclave de Allah. Et maintenant, je suis prince. Parce que dans Hébreux, Jésus dit à ses disciples, vous êtes mes frères. On est les frères de Jésus, on est les fils de Dieu. Je suis devenu un prince, je devais être fier de ça. Et je devais aussi le partager. Parce que ma prière, que tous les esclaves deviennent des princes, ils deviennent des enfants de Dieu. Et c'est ça ce que nous dit Jean. Dieu nous a choisis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est ça la différence. Quand on a, qu'on porte des fruits qui viennent du Saint-Esprit, ça demeure en nous. Et c'est ça notre témoignage. Parce que Jésus, quand il m'a choisi pour avoir le salut éternel et pour être son disciple, un ouvrier, nous devons tous porter des fruits et des fruits visibles. Vous savez, le fruit ici, ça peut signifier deux choses. Vous savez, les fruits du Saint-Esprit dans Galates 5, il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la persévérance, etc. Et puis aussi les fruits, ça peut être quand on partage la foi et on amène quelqu'un à Jésus. Donc on ne peut pas séparer les deux. Parce que quelquefois il y a des gens, dans beaucoup d'églises, on n'explique pas aux gens que chacun de vous ici, vous aviez amené des gens à Jésus probablement indirectement. Probablement parce que les gens, en voyant que vous êtes paisible, que vous êtes différent, et puis ils se demandent pourquoi. Parce que moi, par exemple, pour devenir chrétien, en 79, j'étais en Finlande dans un camp chrétien. Ils m'ont demandé de rester 4 jours, et j'ai refusé, j'ai resté une nuit. Et je suis parti. Mais je suis sûr et certain, ces gens-là, ils ont prié. Ah, ce musulman qui est venu chez nous, Seigneur, ouvre son cœur et tout ça. Ils ont prié, la prière est très importante. Et puis j'étais en Yougoslavie pour étudier. Et là, j'ai vu des chrétiens arabes, et puis j'étais très touché, comment ils étaient gentils, comment ils étaient aimables, différents des musulmans. Et pourtant, ils sont du même pays. Imaginez un Syrien chrétien et un Syrien musulman, on ne peut pas les comparer. Et puis j'ai dit, mais pourquoi ce Syrien chrétien, il est différent de l'autre? Et là non plus, ça n'a pas abouti. Mais quand je suis allé à Londres en 1998, un Égyptien m'a donné un dépliant. Et c'est là que le Seigneur a ouvert mon cœur. Vous voyez qu'il y a des maillons. Donc dans ma conversion, il y a les gens de la Finlande qui ont prié, il y a le témoignage de ceux qui ont mis les fruits de l'esprit devant les païens, et j'ai vu qu'ils sont différents. Et puis il y a l'autre témoignage à Londres. Donc chacun de vous est un maillon. Les gens de la Finlande, ni l'Égyptien qui m'a donné le pamphlet, ne savaient pas aujourd'hui que je suis chrétien. Le Seigneur fait des choses à travers nous et on n'est même pas conscient de ça. Nous sommes une bénédiction sans le savoir. Continuez à vivre votre foi, continuez à vivre selon le Saint-Esprit et les gens, ils vont dire, cette personne, elle est comme ça. Je voudrais être... Parce qu'il y a toujours une période de notre vie, on commence à se décortiquer et à se rechercher. Et c'est là qu'on dit, moi j'en ai marre de cette vie, d'être loin de Dieu, mais j'ai vu cette personne, pourquoi elle est heureuse, pourquoi. Et c'est là qu'on se rapproche de Dieu. Il y a ce verset de Pierre que j'aime bien. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font de la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là, même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ça, c'est très important, la fin. Il y a un jour où le Seigneur visite la personne. Vous savez, on peut partager la bonne nouvelle avec quelqu'un, on peut tout faire, mais on ne peut pas convertir une personne. Ce n'est pas nous. Dieu, il a un temps pour visiter cette personne. Le Seigneur m'a visité à Londres, pas en Yougoslavie, pas en Finlande. Il a son temps à lui pour visiter les gens. Et quand il les visite, c'est comme un film dans leur tête. Ah, cette personne m'a dit. Ah, cette personne. Et c'est là que vraiment les choses s'aboutissent. Donc, faites sortir Jésus de l'Église, exposons Jésus aux autres par notre sainteté, par notre ressemblance à lui, par les dons que le Saint-Esprit nous a octroyés. Et j'aime bien, je finirai par cette image, le pont. Que le Seigneur nous utilise à être un pont. Et pour faire ça, nous devons vraiment nous mettre sur le ventre. Nous devons nous dépouiller de nous-mêmes. Je ne dis plus je suis suisse, non. Je suis serviteur. Comme Paul qui a dit, il faut toujours se mettre, je suis le dernier, je ne suis rien du tout. Et c'est là que le Seigneur travaille à travers nous, que nous serons un pont pour amener les gens vers Jésus. Et lui, il va faire le reste. Lui, il va faire le reste. Le paralytique marchera, l'aveugle verra, et celui qui était dans les ténèbres, il sera désormais dans la lumière. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse vos ministères, vos vies, que chacun de vous sera un témoignage pour amener des gens à Jésus. Et lui, en son temps, il va les visiter. Amen. Prions. Seigneur, qui est comme toi? Aucun Dieu, Seigneur, n'a visité la terre. Aucun Dieu, Seigneur, n'a été serviteur. Aucun Dieu, Seigneur, n'a aimé les hommes comme toi. Seigneur, tu as payé le prix pour nous. Toi qui étais saint, tu as payé pour toutes nos transgressions, nos péchés. Tu t'es, Seigneur, appauvri pour nous enrichir. Et Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier pour toutes les choses que tu fais dans nos vies, même les choses les plus simples et les choses qu'on ne voit pas. Seigneur, nous voulons prier que tu continues à nous bénir, à nous utiliser, Seigneur, comme des sentiers de bénédiction pour les autres. Parce que notre vie sur cette terre, Seigneur, c'est que tu sois glorifié. Et nous voulons, Seigneur, amener des gens à toi. Mais Seigneur, c'est toi qui nous donnes le discernement. C'est toi, Seigneur, qui œuvre à travers nous. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans le monde. Spécialement, on entend toujours des témoignages des gens par des visions, par des rêves. Ils viennent à toi et tu les as utilisés comme témoignages dans leur famille, dans leur milieu. Et continue, Seigneur, à bénir cette Église, qu'elle sera la lumière de ce quartier, de cette ville. Et protège chacun des membres de la famille, leur famille. Et nous prions pour les gens qui sont ici et qui ont des membres de leur famille qui ne te connaissent pas. Seigneur, qu'en ton temps, tu les visiteras. Je prie aussi également pour ma famille. Il y a beaucoup de membres qui ne te connaissent pas. Et je prie, Seigneur, que tu vas les visiter. Parce que, Seigneur, nous avions trouvé une perle, quelque chose de précieux. Et nous voulons le partager avec ceux qui vivent dans les ténèbres. Que ton nom soit glorifié. Nous prions tout ça au nom de Jésus. Amen.